I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mannequin à l'heure de MeToo, épisode 3, Céline.
Céline, c'est un peu un ovni. Blanche, mince, brune, de très grands yeux. Jusqu'ici, ça colle à l'image de la mannequin. Mais elle est aussi étudiante à Dauphine en intelligence artificielle, reine du codage et du machine learning, et passionnée de géométrie. Elle nous raconte comment elle réussit à mettre des carrés dans des ronds.
Je suis super grande, mince, j'ai des grands yeux, voire énormes yeux, et des gros sourcils. Je suis sur plusieurs activités à la fois, donc mannequin depuis 2016, chez IMG en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre et en Italie et au Japon. Et par ailleurs, je finis mon master 2 d'informatique en machine learning et je suis en stage de recherche en informatique aux mines de Paris. J'ai une licence de maths à Paris Dauphine. Ensuite, j'ai commencé le mannequinat et en même temps, j'allais commencé un master de maths et finalement j'ai bifurqué en informatique. Donc, et là je finis ma deuxième année de master d'informatique et je suis spécialisée en images. C'est des réseaux neuronaux appliqués aux images. Nouvelles technologies qui ont été développées ces derniers mois, ces dernières années sur lire des images par des algorithmes automatiques, du coup.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être mannequin ?
Je suis assez aventurière, donc j'avais envie de tenter l'aventure. Et quand j'ai eu 21 ans, je me suis dit qu'il fallait que je me lance maintenant ou que je raterais l'expérience. Et comme j'avais pas envie de regretter, j'ai tenté l'expérience. Voilà. Et finalement, ça a bien marché direct. J'ai commencé à bien travailler, voyager, avoir des clients, faire des rencontres. Je voulais vraiment expérimenter les défilés parce que je trouvais que ça avait l'air d'être vraiment un autre monde. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un autre monde. Mais par contre, je ne savais pas du tout comment aller à ce monde. Maintenant, j'ai une idée un peu plus précise de comment ça se passe. Je pense que toutes les mannequins, on est des personnes qui sont toutes quand même très différentes. Et au final, je pensais que les mannequins, c'était toutes les mêmes, des filles stupides, superficielles, mais pas du tout. Bon, il y en a, mais la plupart, c'est des personnes vraiment très intéressantes, avec des vraies personnalités. En fait, c'est des guerrières, ouais, des vraies guerrières. Les premières fois qu'on m'a fait marcher, donc en casting déjà, c'était assez marrant parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. On m'a directement lancée dans les Fashion Week, on va dire. Donc en fait, on m'a dit « Est-ce que tu peux marcher ?» C'était un vrai truc, en fait. Faire une marche, c'est se présenter en tant que mannequin, objet. Enfin voilà, c'est vraiment différent de juste marcher dans la rue. Donc, j'ai marché. Après, on m'a dit « Non, mais quand tu marches, ne nous regarde pas dans les yeux. Regarde devant toi et ne souris pas. » Bon, voilà. Donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était un vrai truc. Ensuite, mon premier défilé, c'était pour Christopher Kane à Londres. Je me souviens très bien, en fait. Donc, j'étais entre deux filles et je me disais « Bon, faut quand même que je leur demande au niveau des bras comment je vais faire parce que je sais pas vraiment ce qu'il faut faire avec les bras. »
Et c'est marrant, là, t'as dit le mot mannequin-objet. Comment tu décrirais ton métier, justement ?
Alors, je dirais que c'est de la vente d'images et parfois de corps pour mettre en valeur des objets, pour vendre du rêve.
Et t'as l'impression, avec tout le mouvement MeToo, qu'il y a eu un avant-après pour le mannequinat spécifiquement ?
Je pense que superficiellement, oui.
Et donc, dans les faits, ça a
T'as pas l'impression que c'est changé des choses concrètes pour vous ?
Bah, dans les faits, c'est compliqué de savoir.
C'est quelque chose dont vous parlez entre vous ou pas ?
J'ai quelques amis qui se sont un peu confiés à moi récemment, mais avant ça, jamais.
T'as l'impression que ça pourrait enclencher quelque chose d'une forme de solidarité entre vous ?
Le problème, c'est qu'on vient de milieux tellement différents, de pays tellement loin les uns des autres. On est dans un statut assez précaire, donc à moins d'être vraiment installé, on n'a pas de raison de s'unir, en fait. On a une raison de s'unir, mais c'est pas un truc évident. Enfin, j'évolue un peu toute seule, quand même, dans tous les trucs que je fais. Donc la recherche, c'est vrai que je suis en contact avec des gens, mais c'est pas très fréquent. Je peux travailler toute seule à la bibliothèque ou toute seule chez moi ou n'importe où. Et sinon, à mes camarades, je commence à leur en parler, à plus m'ouvrir sur ça. Bah, ça se voit qu'ils ont une image totalement décalée de la réalité. Parce que, en fait, vu qu'on vend du rêve, ben, les gens ils voient le rêve. Ou alors, ils sont un peu avertis et ils voient autre chose. Mais la plupart du temps, ça. Enfin, ils sont là, ah, c'est merveilleux, tu fais ça. Mais c'est vrai que c'est une chance unique de pouvoir faire ça. Mais d'un côté, ils voient pas comment c'est en réalité. Ouais. Il y a plein de niveaux différents dans le mannequinat. Il y a le mannequinat que j'ai connu, mais il y a le mannequinat que certaines mannequins ont connu, qui est, à mon avis, très différent. Je pense quand même que j'ai évolué dans des univers de mannequins privilégiés parce que c'était dans des villes où le mannequinat, c'est quand même pas mal. Enfin, voilà. Mais donc, une des réalités, c'est le voyage. On voyage beaucoup. Une autre réalité, c'est la solitude. On est souvent tout seul, quand même. Bon, moi, c'est un truc que j'aime bien, donc voilà. Et une autre réalité, c'est qu'on se fait mater tout le temps. Voilà. surtout pendant les castings de Fashion Week. Donc, on a... Enfin, après, ça devient peut-être dans la tête, mais on a toujours l'impression de se faire regarder. Donc, est-ce que ça va bien tomber sur toi, le vêtement ? Est-ce que t'as les cheveux assez longs ? Donc, c'est une oppression de regard posé sur soi, un peu. Ou de... On se fait tout le temps toucher, toute la journée, juste pour remettre les cheveux, le maquillage, le vêtement. Donc, c'est ça, la réalité. Voilà.
Et est-ce que, par rapport à ces questions que tu disais d'intrusion, un peu, finalement, du toucher, du regard, de tout ça, est-ce que c'est des choses, t'as l'impression, qui t'affectent après, dans ta vie privée ?
Juste, il faut quand même essayer de maintenir un certain équilibre. C'est vrai que... après une journée, mais je pense que ça, c'est tout le monde, après une journée de travail, on a besoin de se relâcher. Et moi, je me ressource en étant un peu toute seule, donc j'ai besoin d'un peu de solitude en général, à la fin de la journée, quand on m'a touché les cheveux toute la journée. Mais après, il faut dire que j'ai jamais été full-time modèle. Donc j'ai toujours maintenu une activité à côté, du coup, qui me permettait de dire... non, je dois me consacrer plus à mes études pour cette semaine ou deux semaines. Alors que certaines filles, non. Donc,
tu peux me parler un peu du stage que tu es en train de faire en ce moment ?
C'est confidentiel, mais c'est dans le domaine de la recherche sur les visages. Donc c'est des algorithmes sur la reconnaissance faciale.
Donc tu écris des algorithmes toute la journée ?
C'est ça, et j'attends qu'ils tournent et qu'ils me donnent des résultats.
Tu t'imaginais faire des maths, c'est un truc que tu t'imaginais ou pas du tout ?
En fait, au début, je pensais peut-être partir en architecture ou en design parce que j'aimais bien donc la géométrie. Mais aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas encore tout ça. C'est des technologies très récentes qui ont moins d'un an ou deux. Le monde numérique évolue trop vite pour qu'il y a 5 ans, je sache déjà que je voulais atterrir là. J'aime bien être à la croisée de différents mondes.
Que j'allais te demander si tu voyais des ponts entre ton métier de l'image et ton métier...
Justement, je vois des ponts. Enfin, j'ai créé un pont même. En fait, je suis spécialisée en reconnaissance d'image et aussi en reconnaissance faciale. Et donc, je suis en train de monter un projet entre les deux.
Tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment changer la mode, le mannequinat, etc.
Ah bah, l'intelligence artificielle, ça va révolutionner tout. Donc, pas que le mannequinat, pas que l'image. Mais après, c'est vrai que je sais pas à quel point ça va être... à quelle rapidité ça va se faire la transition, parce que la mode, c'est quand même un milieu loin de ça.
Et sans parler de mode particulièrement, tu penses à quelque chose en particulier, tu penses qu'il pourrait être peut-être la première étape de transformation de l'intelligence artificielle dans nos sociétés.
Je dirais c'est la quatrième dimension. J'aime bien tout ramener à la géométrie dans ma tête. Donc du coup, la quatrième dimension, je vois ça comme une construction commune de tous les individus en même temps. C'est quelque chose dont on est acteur, mais qui nous dépasse quand même.
Tu pourrais nous décrire ta forme géométrique préférée ou une forme géométrique que t'aimes particulièrement ?
Oui, pour moi, c'est le cercle ou la sphère, censée être parfait. D'ailleurs, j'ai un tatouage de cercle ici, qui n'est pas parfait malheureusement, parce que voilà, c'est la perfection, c'est pas atteignable. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de cassure, c'est beau.
Dans le prochain épisode, découvrez le témoignage de Gabriel.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.